Coulam.
Muriel Waknin-Melki, bonjour.
Bonjour, monsieur Rodanovich.
Vous êtes avocate, présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Et dans le cadre de l'affaire Sarah Halimi, vous êtes le conseil du frère de cette femme assassinée. Alors j'aimerais que l'on fasse un point sur la décision de la Chambre de l'instruction de considérer l'assassin Traoré comme pénalement irresponsable. Quelle a été votre réaction ?
Une réaction d'indignation dans un premier temps. Et puis très rapidement, la décision de mobiliser au maximum l'opinion publique pour essayer de faire bouger la ligne de la justice dans cette affaire.
Alors j'aimerais que l'on voit une question de procédure. Jusqu'à un temps récent, me semble-t-il, les parties civiles n'avaient pas la possibilité de se pourvoir en cassation. Or, une décision récente du Conseil constitutionnel suite à une QPC a dorénavant ouvert cette possibilité aux parties civiles. Cela s'applique-t-il dans l'affaire présente ? Avez-vous formé un pourvoi ?
Oui, tout à fait. Un pourvoi a été formé par l'ensemble des parties civiles. Donc, tous les avocats des parties civiles ont décidé de se mobiliser pour porter le dossier devant la Cour de cassation. Nous attendons encore à ce jour que le parquet général se mobilise également à nos côtés et forme ce pourvoi qui, comme je l'ai rappelé dans mes précédentes interventions, pour moi est le pourvoi de la honte, car je considère que nous n'aurions jamais dû en arriver à ce stade. Nous y sommes maintenant, donc nous retroussons nos manches et nous poursuivons le combat juridique et puis le combat médiatique aussi, puisque c'est de cela aussi dont il est question aujourd'hui.
Alors justement, le parquet général, vous attendez qu'il forme pourvoi. Est-ce que c'est pas une attente vaine compte tenu de son attitude préalable ?
Alors, est-ce que c'est une attente vaine ? Je ne sais pas. Est-ce que dans cette affaire, la justice a fonctionné d'une manière rationnelle ? Je ne le crois pas du tout. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une distorsion entre les deux parquets, puisque d'un côté, le procureur de la République avait pris des écritures demandant le renvoi de cette affaire devant une cour d'assises, considérant qu'il appartenait à une cour d'assises de trancher le problème de la responsabilité de l'assassin de Sarah Halimi. Et le parquet général, lui, avait pris une position radicalement opposée, considérant qu'au regard des différentes expertises versées au dossier, l'irresponsabilité pénale était acquise et donc le prévenu Kobili Traoré ne pouvait être renvoyé devant une cour d'assises. Donc, dans un dossier où nous avons déjà un premier dysfonctionnement majeur qui est flagrant et qui est le reflet en fait de toutes les difficultés que nous avons rencontrées dans cette affaire, cette distorsion entre les deux parquets m'amène à dire aujourd'hui que oui, le parquet général pourrait finalement dégager de ses écritures demandant le renvoi, demandant justement à ce que cette affaire ne soit pas renvoyée devant une cour d'assises, et puis finalement pourrait considérer les choses sous un angle nouveau pour lui, mais tellement plus juste et tellement plus proche de la réalité, à savoir qu'il demeure la responsabilité d'une cour d'assises de décider si oui ou sinon Kobili Traoré été atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant altéré ou aboli son discernement. Je rappelle que dans cette affaire, nous, les parties civiles, nous ne demandons pas à ce que Kobili Traoré soit condamné ipso facto par la cour d'assises. Nous demandons simplement à ce qu'un jury populaire, une cour d'assises normalement constituée, puisse connaître de la responsabilité partielle, de la responsabilité totale, de l'irresponsabilité partielle ou de l'irresponsabilité totale de Kobili Traoré et en voie de conséquence rentrer, oui ou non, en voie de condamnation vis-à-vis de Kobili Traoré à son égard.
Alors, l'attitude,
voilà notre position aujourd'hui.
L'attitude de la ministre de la justice, ne vous semble-t-elle pas quelque peu frileuse ? Évidemment, on nous dit que le ministre ne peut pas donner des instructions sur des affaires particulières, mais son propre sentiment, elle se réfugie derrière un discours. Les experts ont tranché, elle ne se mouille pas beaucoup.
Alors, elle se retranche derrière la loi de 2013 qui, effectivement, interdit à la garde des Sceaux de s'immiscer dans une affaire individuelle. Pour autant, elle rappelle que c'est tout de même elle qui donne la politique pénale chaque début d'année au parquet général et qui indique la position du gouvernement, la position de la garde des Sceaux dans toutes les affaires que le parquet aura à connaître, et notamment dans les affaires qui traitent du terrorisme ou des affaires d'antisémitisme. Donc oui, la position me semble frileuse. Oui, dans une telle affaire, il me semble important de faire montre de courage et effectivement de prendre peut-être un peu de liberté vis-à-vis de ce que prévoit à l'origine notre code de procédure pénale et puis le code de fonctionnement de la justice également. Mais je le rappelle, cette affaire est une affaire qui dépasse le cadre de la communauté juive. C'est une affaire qui va impacter toute la société française. C'est une affaire qui illustre un dysfonctionnement majeur au sein de la justice dans la manière dont cette affaire a été traitée par la juridiction sur Paris. Il faut considérer dans un premier temps ce dysfonctionnement pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de grave, et dans un second temps se poser véritablement la question de savoir quel combat aujourd'hui notre gouvernement souhaite mener contre l'antisémitisme et quels sont les moyens dont il se dote pour y arriver. Parce qu'enfin, il ne s'agit pas de prendre un énième plan de lutte contre l'antisémitisme ou contre le racisme, contre les autres formes de racisme. Il s'agit aujourd'hui, dans un cas qui est terrible, celui de l'assassinat de Sarah Halimi, d'apporter une réponse judiciaire qui soit claire. Et quand je parle de clarté, évidemment que je pointe ce dysfonctionnement, cette distorsion entre les deux parquets qui perdent tous les acteurs judiciaires aujourd'hui, personne ne s'y retrouve. Et puis, je pointe également le rôle de nos forces de police. Nous avons posé des questions qui n'ont pas eu de réponse, à laquelle la justice n'a pas souhaité apporter de réponse. Nous ne savons pas ce qui s'est passé véritablement ce soir-là, au mois d'avril 2017, le 4 avril 2017, cette nuit-là. Nous ne savons pas ce que nos forces de police ont fait, ont pu faire, ont voulu faire, ou ont exécuté certains ordres, ou ne les ont pas exécutés. Nous n'avons pas d'éléments de réponse par rapport à cela. Et c'est une vraie question. C'est une question qui demeure entière. Et là aussi, évidemment, ne pas y répondre laisse libre cours à tous les fantasmes et à tous les scénarios possibles.
Alors justement,
Oui. Oui.
Il n'y a pas possibilité d'une action distincte de celle contre Traoré, qui serait cette fois-ci une citation directe des forces de police ?
Non, il y a une plainte qui est déposée à l'IGPN par le confrère Golnadel. Donc, cette plainte a été déposée il y a maintenant pratiquement une année, je crois. Et à ce jour, je n'ai pas d'informations sur des éléments nouveaux. Donc, en clair, cette plainte est au point mort. Nous verrons dans un second temps si, effectivement, il faut aller chercher la responsabilité de l'État, la responsabilité de nos forces de police, s'il faut investiguer de manière parallèle. C'est vrai que toutes ces questions-là, évidemment que si nous sommes renvoyés devant une cour d'assises, à ce moment-là, nous aurons la possibilité de faire citer les fonctionnaires de police pour les entendre et pour entendre les explications qu'ils ont très certainement à nous donner sur leur non-intervention ce soir-là. Je rappelle qu'ils étaient quand même assez nombreux sur place, que leur présence a duré plus d'une heure, que pendant près de 10 à 15 minutes, ils étaient présents alors que Sarah était encore en vie et n'avait pas encore été défenestrée. Donc nous avons besoin de réponses. Et puis quand je dis nous, je ne parle pas que de la communauté juive. Je crois que cela intéresse tous les citoyens français de savoir s'ils peuvent compter sur nos forces de police pour nous défendre le moment venu ou pas.
Alors, au-delà du strict cadre de la communauté juive, toujours dans le cadre du droit, en juillet 2017, les députés ont voté l'impossibilité pour un condamné pour motif raciste ou antisémite de se présenter à une élection parlementaire. À votre connaissance, cette loi est-elle définitive et les décrets d'application ont-ils paru ? Et puis, ne pensez-vous pas qu'il sera opportun d'étendre cette disposition aux élections dans toutes les collectivités territoriales ?
Alors, je pense que de toute manière, c'est une nécessité. Je ne crois pas qu'il y ait de décret d'application qui soit survenu sur cette loi de 2017. Je pense que c'est une nécessité que d'y venir. Parce que dans un premier temps, évidemment que lorsqu'on a vocation à représenter un mandat public, eh bien, il vaut mieux être exempt de toute condamnation et encore plus, je dirais, de toute condamnation qui aurait trait à toute forme de, d'infractions à caractère raciste, antisémite. Et puis, dans un second temps, cela permettrait bien évidemment de faire le tri entre des personnes qui sont véritablement animées d'une volonté sincère de la chose publique et qui sont animées d'un intérêt général et qui sont animées d'une volonté de bien vivre ensemble et puis de combattre pour que ce bien vivre ensemble soit plus que de 20 mots, mais une réalité. Et lorsque je vois certaines personnes dans l'extrême droite ou dans l'extrême gauche tenir des propos de manière récurrente qui tombent sous des qualifications pénales, que ce soit des propos d'incitation, de provocation à la haine, parfois même d'apologie du terrorisme pour certains d'entre eux, et que je continue à les voir exercer leur mandat politique et d'élu républicain, je me pose des questions sur la compatibilité entre ces casiers judiciaires qui commencent à s'allonger et leur fonction publique, effectivement. C'est une vraie question.
On en reparlera dans quelques instants. Question d'actualité, quelle conclusion tirez-vous de la relaxe d'Alain Soral devant le tribunal correctionnel de Colmar pour une quenelle, alors que la Cour d'appel de Paris l'avait condamné pour un même geste le 18 février 2016?
Alors, il s'agit d'une jurisprudence qui essaye de passer en force, à savoir que la quenelle qui serait réalisée en dehors de tout site à caractère religieux juif, alors que ce soit un mémorial, que ce soit une synagogue, que ce soit une école juive, voilà les éléments qui ont été retenus par les différentes jurisprudences. La tentative de ce tribunal à Colmar de voir finalement revenir en arrière sur la qualification de geste antisémite de cette quenelle. Nous verrons ce que la Cour d'appel dira, et puis si la Cour d'appel ne tranche pas dans la direction qui s'impose, à savoir de retenir de manière claire, de manière explicite, sans ambiguïté, le fait qu'une quenelle est bien évidemment un geste antisémite et profondément antisémite, nous irons en Cour de cassation et nous continuerons le combat. Et puis, de toute manière, la Cour de cassation a vocation, avant tout, je le rappelle, à rendre uniformes les décisions des différentes instances en France. Et donc, c'est son rôle, et puis nous veillerons à ce que ce rôle soit véritablement accompli.
Alors, Maître Muriel Wakni-Melki, on nous annonce aujourd'hui que le premier Français condamné pour terrorisme islamiste en France a été libéré hier au terme de 7 ans de prison. D'ailleurs, plus largement, la justice prévoit en 2020 la sortie de prison de 42 personnes définitivement condamnées pour des faits liés au terrorisme islamiste. Cela pose un problème de fond. Y a-t-il, selon vous, une réinsertion possible dans la nation? Ou sinon, ces terroristes libérés ne constituent-ils pas, pardon, des bombes à retardement?
Ils constituent des bombes à retardement, évidemment. Évidemment, et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer leur présence au quotidien, à mes côtés, à vos côtés, aux côtés de nos familles respectives, de pouvoir les croiser en faisant des courses, de pouvoir aller au cinéma, dans les actes de la vie quotidienne les plus classiques. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me projeter, à nous projeter dans cette situation. En même temps, je me demande quelle est la solution véritable pour ces personnes qui sont condamnées par nos institutions. Est-ce que les peines qui sont appliquées sont des peines suffisamment longues? Est-ce que nous avons tous les ressorts nécessaires aujourd'hui en France pour traiter ces personnes qui ont été à un moment donné complètement embrigadées et dont le cerveau a été formaté pour commettre ces attentats? Comment arriver finalement au bout de quelques années, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, à garantir que ces personnes sont de nouveau aptes à une vie en société? Ce sont des vraies questions, ce sont des questions qui relèvent peut-être plus du traitement psychiatrique que du traitement judiciaire. En l'occurrence, il y a de vraies réflexions de fond à mener, de vraies études aussi, et peut-être aller s'inspirer de ce qui est fait dans les autres pays en Europe, éventuellement aux États-Unis, éventuellement en Israël également. Je vais prendre exemple.
Mmh. Alors, vous avez été choqué par les propos de Raquel Garrido dans l'émission de Cyril Hanouna, que ce dernier lui-même a qualifié de propos antisémites. Je ne vous demande pas de nous dévoiler ce que vous entendez faire, mais rassurez nos auditeurs en confirmant que vous n'allez pas rester les bras croisés.
Non, nous n'allons pas rester les bras croisés. À l'OGIE, nous sommes extrêmement combatifs. Je pense que vos auditeurs et maintenant plusieurs personnes sont au courant de cela. Donc nous combattons, nous ne baissons jamais les bras, nous ne lâchons jamais rien. C'est notre slogan à l'OGIE. Donc les propos qui sont tenus par Raquel Garrido sont des propos qui sont étudiés en ce moment même par notre équipe d'avocats pour voir quel traitement judiciaire ou non judiciaire ils sont susceptibles de recevoir. Ces propos qui sont de toute manière quotidiens, en vérité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ou dans la presse écrite, sont des propos qui systématiquement sont étudiés, et lorsque nous considérons que les infractions sont constituées et que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis pour permettre à un tribunal de rentrer en voie de condamnation, nous déposons des plaintes. Faisons des signalements, nous déposons des plaintes, nous nous constituons partie civile dans le procès et nous combattons jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'une condamnation soit possible.
Alors, on a évoqué tout à l'heure des parlementaires, une autre figure emblématique de l'islamo-gauchisme est Jean-Luc Mélenchon, que d'ailleurs Yann Moix, sur les ondes de Coulam Radio, a considéré que sa place était dans un hôpital psychiatrique. Face à ses propos, ceux de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Israël ou aux institutions juives de France ou d'ailleurs, n'y a-t-il pas matière à poursuivre ?
Il y a toujours matière à poursuivre. Ce sont toujours des propos qui sont susceptibles d'être poursuivis, en tout cas qui peuvent justifier la mise en examen quand c'est un juge d'instruction que nous souhaitons voir saisi, ou le renvoi devant un tribunal correctionnel. Après, que ces propos trouvent suffisamment d'écho au sein de nos juridictions pour donner lieu à des condamnations, c'est un autre débat. Mais je reste convaincue que si nous n'agissons pas de manière systématique, la liberté de parole que nous connaissons en France ne va pas aller dans une optique d'apaisement vis-à-vis des propos antisémites qui sont tenus de manière récurrente sur la scène publique. Je pense qu'il faut de nouveau, en fait, reposer un peu les cadres de ce qui peut être dit, de ce qui peut être écrit, de ce qui peut être déclaré lorsque on a vocation à prendre la parole en public. C'est bien pour cela que le législateur a prévu des infractions de provocation à la haine et que cette infraction de provocation ne trouve finalement d'application que lorsque les propos sont tenus en public. En sphère privée, vous pouvez dire ce que vous voulez. Au cours d'un dîner entre amis, vos propos sont libres. À partir du moment où vous les exprimez en public, ils deviennent dangereux. Et ils deviennent dangereux parce que dans l'esprit de certaines personnes, qui parfois sont plus faibles, lorsqu'ils sont répétés en boucle ou lorsqu'ils sont entendus en boucle par ces personnes-là, par le biais des replays, des podcasts ou des vidéos qui tournent en boucle sur YouTube, par exemple, lorsque ces propos sont répétés en boucle dans des esprits plus faibles, ils conduisent inéluctablement à des passages à l'acte violent. C'est pour cela que le législateur a prévu des peines de prison fermes pour ces infractions-là. Alors, nous avons des difficultés en France à exécuter les peines de prison. Vous le savez, quand les peines de prison sont inférieures à 2 ans, ce qui est le cas pour les infractions de provocation à la haine, nous avons des aménagements de peine. Ce qui fait que des Soral, des Dieudonné, des Rissen ne sont jamais placés en détention ou en centre pénitentiaire. Donc, là-dessus, il y a des aménagements, des textes de loi qui sont en train d'être à l'étude pour justement prévoir que les 2 ans, on passe à 1 année pour permettre notamment dans les infractions à caractère raciste, antisémite, des placements en centre pénitentiaire.
Alors, Maître Muriel Wakni-Melki, nous vous connaissons, nous vous savons combative, vous présidez l'OGIE. Pouvez-vous rappeler à ceux de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'Organisation juive européenne, quel est son rôle et ses actions? Et puis, vous organisez prochainement un gala de soutien. De quoi avez-vous besoin? Et quels sont, pourquoi pas, les auditeurs dont vous auriez intérêt à ce qu'ils vous rejoignent?
Alors, nous, à l'OGIE, nous combattons depuis maintenant bientôt 5 années. Voilà, nous allons fêter nos 5 ans en février 2020. Nous combattons toutes les formes d'antisémitisme, l'antisionisme et l'antisémitisme sous toutes ses formes. Nous défendons haut et fort, je dis bien haut et fort, les intérêts d'Israël. Nous sommes présents dans toutes les affaires de boycott et nous essayons, autant que faire se peut, de porter la voix d'Israël dans tous les débats où nous pouvons intervenir, où nous sommes invités. Nous essayons d'apporter un éclairage différent. Et en cela, nous participons un petit peu, en toute modestie, à faire en sorte qu'Israël puisse jouir d'une image à la hauteur de ce qu'Israël est vraiment, un pays fantastique avec d'énormes ressources, avec un vrai respect des droits de l'homme, comme nulle part ailleurs dans la région, et nous le savons, nous, les auditeurs de Koulam et les personnes qui voient un intérêt certain à Israël. Nous sommes convaincus de cela, mais nous apportons aussi cet éclairage dans des endroits qui sont parfois plus hostiles. Alors nous combattons grâce à notre département juridique qui est fort aujourd'hui de près de 55 avocats qui sont répartis sur tout le territoire national. Nous avons désormais aussi des correspondants en Espagne, à Bruxelles, en Angleterre, bientôt en Italie. Et nous avons vocation à travailler aussi sur des plaintes que nous souhaitons désormais voir portées sur le plan international et non plus uniquement en droit français ou en droit européen. Nous avons désormais aussi un partenariat avec les États-Unis, avec des confrères avec qui nous travaillons sur certains projets, et notamment sur la haine sur les réseaux sociaux. Nous avons des secteurs d'intervention qui sont évidemment privilégiés, puisque nous souhaitons cibler en priorité tout ce qui porte atteinte à l'image d'Israël, mais également tout ce qui porte atteinte à la communauté juive en France et en Europe, principalement. Nous avons développé des services depuis plus de 5 ans maintenant d'investigation avec des personnes qui veillent sur Internet et qui nous rapportent des informations, ce qui permet de nourrir nos dossiers déjà, et puis de nous tenir informés de ce qui circule sur le net, en faveur, en défaveur, et en fonction d'eux, nous agissons aussi. Et puis, nous avons également notre département protection auquel nous tenons énormément, un département protection qui permet d'entraîner les personnes qui souhaitent se former au sport de défense, et puis à la sécurité aussi. Ce département a vocation à permettre à tous les membres de la communauté qui souhaitent bénéficier d'un entraînement et qui n'ont pas forcément les moyens de rejoindre des salles de sport plus coûteuses, nous les accueillons volontiers. Nous les formons à la sécurité aussi, pour pouvoir assurer la sécurité de certains des événements de la communauté juive, et puis aussi pour assurer la sécurité de nos avocats, parce qu'il est des dossiers sur lesquels il y a véritablement des pressions, des dossiers dont les autres avocats ne souhaitent pas, sur lesquels d'autres avocats ne souhaitent pas intervenir. À l'OJUE, nous prenons tous les dossiers, y compris ceux qui nous exposent à certains risques. Donc nous avons parfois besoin d'une présence, soit dans les salles d'audience, soit pour repartir des salles d'audience quand nous finissons nos audiences un peu tard dans la nuit, ce qui arrive de manière assez régulière. Voilà pour les principaux secteurs d'intervention de notre organisation. Alors oui, bien sûr, nous souhaitons que toutes les bonnes volontés nous rejoignent et nous sommes convaincus à l'OJE que c'est en associant les compétences des uns et des autres que nous arriverons à faire avancer notre combat contre l'antisémitisme et pour la protection des intérêts d'Israël. Alors rejoignez-nous nombreux et nous vous ferons savoir, notre gala doit en principe se tenir courant mars, nous donnerons la date précise dès que nous aurons confirmation des petits soucis logistiques de dernière minute.
D'accord. Voilà. Et donc, un numéro de téléphone ou une adresse internet où ceux qui voudraient avoir plus de renseignements ou vous aider peuvent vous joindre?
Alors, vous pouvez désormais rentrer en contact par le biais de notre page Facebook en tapant OJE. Nous avons aussi un compte Twitter sur lequel vous pouvez nous suivre et aussi rentrer en contact. Et enfin, depuis quelques jours, un compte Instagram OJE.
Ah ben voilà.
Voilà, qui devrait permettre à vos auditeurs de rentrer en contact avec n'importe lequel d'entre nous à toute heure de la nuit et du jour.
Bien, merci à la présidente extrêmement combative, Maître Muriel Waknin-Melki, qui, je le rappelle, est également l'avocate du frère de Sarah Halimi. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions et à très bientôt.
Merci à vous. Koulam.